Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale.
Vous m'interrogez sur la réforme des collèges, dont je redis ici quelle ambition elle porte, celle de faire réussir tous les élèves de France en leur permettant d'être mieux accompagnés dans leurs apprentissages, d'apprendre d'une façon plus efficace et d'apprendre de nouvelles compétences dont ils auront besoin dans leur vie.
Je vous reproche d'affaiblir la maîtrise des disciplines fondamentales en réduisant le nombre de...
C'est faux.
Pour les disciplines fondamentales.
Monsieur le maire, aucune discipline fondamentale ne perd d'heure d'ailleurs.
Ne pas valoriser la voie professionnelle et l'apprentissage, la première décision qu'a prise François Hollande en arrivant au pouvoir en 2012, est de supprimer les aides à l'apprentissage. Vous avez diminué de 60 000 le nombre d'apprentis en France. Ne vous faites pas croire aux téléspectateurs
que
vous croyez à l'apprentissage alors même que vous avez réduit les aides à l'apprentissage.
Vous avez saccagé l'éducation nationale pour employer un terme qui me semble parfaitement
de la saccager vous aussi, Madame Vallaud-Belkacem.
Vous avez l'intention d'aller plus loin encore,
vous avez
voulu
supprimer les bourses au mérite. Vous ne croyez pas au mérite, vous ne croyez pas à l'excellence, vous ne croyez pas à la capacité des enfants à réussir mieux.
Voilà la réalité. Dans l'éducation nationale, lorsque vous prévoyez.
Chers auditeurs, c'est la rentrée. Et je vous le dis tout de suite, cela me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année sur Transistor, la web radio de l'ENS Lyon. On n'y comprend plus rien, on ne s'entend même plus. Et si aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet très sensible, comme celui de la réforme de Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem, c'est bien parce que l'éducation est un sujet qui nous concerne tous. Afin d'y voir plus clair, nous avons mené l'enquête. Car si vous n'avez pas eu encore le temps de vous pencher sur le détail de cette réforme, et si vous vous demandez que viennent faire dans la même phrase l'islam, les lumières, le latin et l'allemand, ne vous inquiétez pas, croyez-moi, vous allez être au point. Deux hommes, dont les parcours sont profondément marqués par l'éducation, ont accepté de répondre à notre micro. Patrick Hetzel a beaucoup travaillé sur les questions d'éducation par le biais de la commission Hetzel, commission éponyme, qui a servi de base à l'élaboration de la loi dite LRU, loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Il est d'ailleurs ancien recteur de l'Académie de Limoges et actuel député Les Républicains du Bas-Rhin. Pour nos plus jeunes amis, c'est aussi le créateur du site Postbac. D'autre part, François Bayrou, que l'on ne présente plus, mais dont on dira tout de même qu'il est professeur agrégé de français et ancien ministre de l'Éducation nationale de 1993 à 1997. Je vous laisse d'ailleurs sa réaction à chaud lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de cette réforme.
C'est une démolition. C'est une démolition de choses qui sont précieuses et qui étaient au collège, à la vérité, les seules choses qui marchaient. Prétendre que parce qu'il y a des cursus de formation, des parcours de formation, qui ne sont suivis que par 20% des élèves, il faut les supprimer. Alors c'est un choix idéologique d'une incroyable, pour moi, gravité. Parce que l'école, l'éducation nationale, son contrat fondateur avec la nation, c'est le meilleur offert à tous. Non pas garanti à tous, non pas imposé à tous, mais offert à tous. C'est évidemment une atteinte profonde. Et une atteinte profonde à la vocation sociale de l'école. Pourquoi de l'éducation nationale? Pourquoi? Oh, pour une raison très simple. Il y a des familles qui continueront à transmettre le latin, le grec et les langues vivantes à haute dose. Il y en a. C'est celles qui auront les réseaux et les moyens financiers de le faire. Et sous couvert d'égalitarisme, en réalité, on institutionnalise la discrimination sociale par... l'initiation sociale et par l'argent.
Pourriez-vous nous proposer quelques pistes qui, selon vous, permettraient de moderniser l'enseignement français?
C'est très simple, hein. Je vais en proposer trois. Je suis pour que on contrôle au moment de l'entrée en sixième si on maîtrise ou pas ces outils élémentaires que sont la lecture d'abord en premier et puis l'écriture ensuite. Et si on ne les maîtrise pas, je suis pour qu'il y ait une année de rattrapage. La deuxième chose, il faut absolument simplifier et écrire en français les programmes. Si vous lisez les programmes comme ils sont écrits, vous vous dites que franchement, les gens qui font ça, un, ils n'habitent pas le même pays que nous, et deux, ils n'ont jamais mis les pieds dans une classe. Et les programmes sont trop touffus, trop compliqués. Ministre de l'Éducation, j'avais mis au programme les grandes figures historiques. Depuis Charlemagne, en passant par Saint-Louis, de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, parce que ça fait quand même quatre figures qui sont intéressantes à examiner, les grandes figures de la Révolution, et puis Napoléon. Et ça allait jusqu'à Marie Curie. Vous voyez bien qu'il y a pour l'enfance quelque chose à raconter dans les grandes figures. Et la troisième chose, alors là qui demande un effort considérable, il faut apprendre à apprendre. Le jour où on comprendra, alors c'est une déclaration de principe de ma part, que l'esprit humain, spécialement l'esprit humain, dans son jeune âge, il apprend mieux quand il est actif que quand il est passif. Il a... entre dans le secret des choses qu'il veut découvrir, il y entre mieux quand il est actif que quand il est passif, et quand il a confiance en lui que quand il n'a pas confiance en lui. Ça, c'est un changement de paradigme pédagogique. Mais pour ça, il faut garantir aux profs le silence dans la classe. Et vous voyez que c'est une quatrième réforme qui travaille alors sur le comportement, la manière dont on peut... aller au comportement. Et enfin, dernier point, pour les élèves qui sont vraiment en refus, en blocage total, faut inventer quelque chose d'autre que j'avais appelé le collège hors les murs, qui ne soit plus scolaire, qui soit quelque chose d'autre.
En définitive, et selon vous, quel est le point le plus critiquable de cette réforme ?
Mais c'est l'attaque contre les langues. D'abord, la diminution drastique du nombre d'heures en français. J'avais mis 6 heures de français en 6e par semaine, et plus encore à l'école primaire. Parce que ça, c'est la clé, vous comprenez, vous le savez bien, c'est là qu'est la clé de tout. Cette fois-ci, on a baissé les horaires de français beaucoup, c'est 4h30, et encore sur ces 4h30, il faut prendre, à partir de la 5e, ce qu'ils appellent les EPI. Les EPI, c'est pris sur les autres horaires. Mais l'attaque maximale, elle est contre les langues anciennes, les langues étrangères et les langues régionales, qui étaient à peu près ces trois approches linguistiques, la seule chose qui marchait bien, pour les élèves qui le voulaient. Alors on peut dire qu'ils étaient trop peu nombreux, mais alors la question, c'est comment élargir le nombre. Et ce n'est pas supprimer ces options qui faisaient quelque chose de très précieux pour la culture française.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis.
Mais au fond, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque cette réforme du collège ? Tout d'abord, cette réforme n'est pas à confondre avec la refonte des programmes qui doit entrer en vigueur au même moment en septembre 2016. Quand la réforme s'attaque à la forme, la refonte concerne les contenus enseignés du CP à la 3e. C'est d'ailleurs dans cette refonte des programmes qu'est évoquée la polémique sur l'enseignement de l'islam et l'enseignement qui devient aujourd'hui facultatif de la période des Lumières en histoire. Mais revenons sur la réforme, puisque nous sommes ici pour cela. L'objectif principal de Madame la Ministre est de lutter contre l'ennui supposé des collégiens, qui génère de l'échec scolaire et de l'exclusion sociale. Pour y parvenir, elle mise principalement sur ces fameux EPI, qui sont les enseignements pratiques interdisciplinaires. Ces modules sont au cœur de la nouvelle organisation du collège. Ils s'ajouteront d'ailleurs au tronc commun, qui rassemble les disciplines déjà existantes, français, maths, histoire-géographie, et prendront la forme soit d'un temps d'accompagnement personnalisé, soit, je cite, d'enseignement interdisciplinaire. Pour ces derniers, qui font d'ailleurs débat, les élèves travailleront en petits groupes sur des thématiques transversales qui sont au nombre de 8. C'est d'ailleurs dans ces fameux EPI interdisciplinaires que l'on retrouve le latin et le grec réunis désormais dans un unique module que l'on appelle « Langue et culture de l'Antiquité ». 3 heures hebdomadaires. Bon, c'est pas beaucoup, certes, pour les passionnés de latin et de grec que nous sommes, mais à la suite de vives critiques des enseignants, un troisième volet a été ajouté à la dernière minute, la création d'un enseignement de complément, je cite, en langue ancienne doté d'une heure en cinquième et de 2 heures en quatrième et troisième, qui dépend du volontarisme des établissements. Les EPI impliquent donc une nouvelle manière d'enseigner, plus collaborative, plus interdisciplinaire, davantage tournée vers les projets, afin de rendre l'élève maître de son savoir et plus seulement passif dans l'apprentissage. Et concernant les classes bilangues, eh bien pour le coup, elles seront tout bonnement supprimées. Au profit d'ailleurs d'un enseignement de la deuxième langue, dès la cinquième, alors que de notre temps, vieux que nous sommes, on commençait l'espagnol, l'italien, l'allemand, à partir de la quatrième. Cette mesure a d'ailleurs suscité l'émoi de l'ambassadrice d'Allemagne en France, ainsi que de presque tous les germanophiles présents sur le territoire. Notre second invité d'ailleurs, le député du Bas-Rhin Patrick Hetzel, va même jusqu'à affirmer, je cite, « la réforme du collège casse ce qui marche ». Voyons avec lui ce qu'il entend plus précisément par là.
Alors pour être très précis, quand je mets l'accent sur le fait de dire qu'aujourd'hui cette réforme telle que proposée par le gouvernement concernant le collège casse ce qui marche, c'est que il y a tout d'abord cette question des classes bilangues. Pour moi c'est un élément fondamental, d'ailleurs qu'il s'agisse des classes bilangues ou aussi des sections européennes. Ce sont des choses qui aujourd'hui fonctionnent et en réalité ce qu'il faudrait faire c'est davantage les développer plutôt que de les supprimer. Et donc, en fait, cette idée, c'est évidemment, lorsque vous écoutez la ministre de l'Éducation nationale, elle vous dit, mais enfin moi, j'avance l'enseignement de la deuxième langue dès la classe de cinquième. En réalité, ça va être un enseignement très allégé, 2h30 par semaine. Ça n'a pas le même impact que les classes bilangues. Et puis, de surcroît, je pense que cela va faire baisser le niveau en général, et puis plus particulièrement dans le cas de l'allemand, cela va avoir des incidences très directes.
Y a-t-il quelque chose que vous appréciez, un point de détail de cette réforme peut-être, que vous appréciez malgré votre position générale sur cette réforme ?
Alors, il faut être très, très honnête. Il y a un point qui mérite une attention toute particulière, même si, j'y viens tout de suite, lorsque vous regardez de près, nous n'avons pas forcément la même définition. Mais en l'occurrence, le point intéressant, c'est celui de l'autonomie des établissements. Il est vrai que la ministre a aussi insisté sur le fait qu'elle souhaitait donner davantage d'autonomie aux chefs d'établissement. Ça, c'est une bonne piste et il faut effectivement le saluer. Par contre, à mon avis, elle ne va pas suffisamment loin et surtout, elle ne tire pas toutes les conséquences de ce que cela veut dire que de donner de l'autonomie au chef d'établissement, parce que en réalité, donner de l'autonomie, c'est aussi la possibilité de procéder au recrutement, c'est la possibilité d'organiser pédagogiquement l'établissement. Ce sont des points sur lesquels, à mon avis, la ministre ne va pas assez loin, mais c'est aussi le point sur lequel on peut avoir un certain intérêt pour la réforme actuelle.
Dans ce débat, que l'on a par exemple vu à la télé, la gauche reproche souvent à la droite un élitisme servant une minorité, et la droite reproche souvent, dans des positions un petit peu caricaturales, à la gauche l'idéologie égalitaire ayant bradé le niveau scolaire général. Y a-t-il, selon vous, Patrick Hetzel, une alternative possible ? Quelle proposition peut-on faire pour rénover l'enseignement secondaire en France aujourd'hui ?
Alors pour rénover l'enseignement secondaire en France aujourd'hui, le plus important, c'est de prendre conscience du fait qu'il y a bien un problème au collège. Il y a des situations d'échec à ce niveau-là. Nous avons des jeunes qui n'arrivent pas à l'issue de la troisième à avoir une bonne maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences. Ça, c'est une évidence et il faut s'en occuper. pour s'en occuper, eh bien, il est essentiel de permettre, là aussi, une organisation davantage modulaire du collège. Et pour ma part, je suis extrêmement favorable à ce que l'on donne davantage d'autonomie pour qu'il y ait de véritables contrats d'établissement, c'est-à-dire que l'autorité académique, cette fois-ci, en tire aussi les conséquences dans sa relation avec les chefs d'établissement, enfin les principaux de collège, et par voie de conséquence aussi les enseignants présents dans ces collèges, pour avec eux eh bien, définir un projet et des objectifs à atteindre, et ça, ça passe aussi par une plus grande autonomie et une organisation davantage modulaire du collège.
Y a-t-il une incompatibilité à long terme entre une plus grande autonomie donnée au collège et une sorte d'enseignement à plusieurs vitesses en fonction des collèges ?
Non seulement il n'y a pas d'incompatibilité, mais c'est aussi cela l'idée. On voit bien aujourd'hui, lorsque l'on fait des comparaisons internationales, il y a des pays qui ont organisé différemment leur enseignement secondaire, allant davantage sur une organisation modulaire. Je pense que nous devons aussi aller dans cette direction. Et à la grande différence de ce qui est proposé aujourd'hui, je pense qu'il faut expérimenter. Mais par contre, tirer aussi toutes les conséquences de telles expérimentations qui seraient menées. Je pense que la grande faiblesse aujourd'hui de ce que propose Mme Vallaud-Belkacem, c'est qu'elle propose la même chose partout. Et je pense qu'il faut sortir de ce schéma de l'unicité et surtout de l'imposition unilatérale par le ministère. Je pense qu'il faut changer également de vision en termes de politique publique, c'est-à-dire qu'il est important de définir un cadre à l'intérieur duquel les chefs d'établissement et les équipes éducatives peuvent assurer leur mission, mais je pense qu'il faut aussi leur permettre d'avoir des prise d'initiative.
Y a-t-il donc certains points de continuité entre vos travaux et l'action des différents ministres de l'Éducation nationale depuis François Hollande ?
À vrai dire, non, parce que les travaux tels que j'avais pu les conduire depuis la commission du débat national Université-Emploi et puis par la suite lorsque j'étais directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, c'était d'abord de fortement mettre l'accent sur la liaison entre le monde professionnel, l'enseignement supérieur et la recherche. Je trouve que sur ce point, il y a aujourd'hui une rupture. Et ce que je constate, c'est que les politiques qui sont mises en œuvre actuellement sont des politiques de très forte uniformisation. Je trouve que on ne prend pas suffisamment en compte l'élève comme individu. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est sans doute aussi une différence de conception politique entre la gauche et la droite. C'est que peut-être que d'aucuns parlent d'individualisme, mais en tout cas, nous attachons aussi beaucoup d'importance au fait qu'un élève, eh bien, c'est un individu. Et donc, il est important de pouvoir aussi prendre en compte ses aspirations.
Cette première partie d'émission consacrée à l'éducation est à présent terminée. Je tiens à remercier vivement nos deux intervenants d'aujourd'hui pour la qualité de leur accueil, mais surtout pour celle de leurs argumentations. La semaine prochaine, nous recevrons pour la deuxième partie de cette émission spéciale sur l'éducation, la compagnie de Michel Barra, ancien recteur de Nouvelle-Calédonie et actuel recteur de l'Académie de Corse, deux académies aux spécificités culturelles bien affirmées. Il viendra nous parler de sa vision des réformes en cours, ainsi que de la réalité du travail de terrain d'un recteur. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter sur la page de Transistor, la radio de l'ENS, pour plus d'actualités à paraître, ou encore sur mon compte Twitter personnel, un petit peu de publicité, Quentin André. Je vous dis donc à la semaine prochaine, à très bientôt.